22h.
Alexandra Pleyler avec RTS Première.
La proposition américaine de cesser le feu à Gaza ne répond pas aux demandes du Hamas. D'après Bassem Naïm, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien, l'arrêt total de la guerre et de la famine, exigences du Hamas, n'ont pas été prises en compte par Israël dans le projet de trêve. Une proposition qui, selon la Maison-Blanche, a été acceptée aujourd'hui par Israël, mais le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a pas officiellement réagi. En Suisse, la situation dans la zone sinistrée de Blatten est extrêmement difficile. C'est ce qu'a déclaré ce soir lors d'un point presse le conseiller d'État valaisan Stéphane Ganzer. Suite à l'effondrement du glacier du Birch, le village de Blatten a été recouvert et la rivière Lanza bouchée, formant un lac qui devrait déborder demain matin selon les experts. Il met également en garde contre les conditions instables dans le cône de débris, ce qui empêche les travaux de nettoyage et de recherche, notamment celles menées pour retrouver l'homme de 64 ans porté disparu après l'effondrement. La présidente de la Confédération Karine Keller-Souterre a prévu de se rendre demain après-midi dans le Lunchental. Et cet appel d'Ursula von der Leyen, la création d'une Pax Europae, une manière pour que l'Union européenne prenne son avenir sécuritaire en main, selon la présidente de la Commission européenne lors de la réception aujourd'hui du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, un prix qui célèbre la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours, Ursula von der Leyen a évoqué une paix nouvelle génération fondée sur l'indépendance et la puissance de l'Europe, faisant ainsi référence au désengagement des États-Unis du vieux continent. Pour elle, un nouvel ordre international va émerger avant même la fin de cette décennie. Au Portugal, Luis Montenegro a été reconduit au poste de Premier ministre, annonce ce soir la présidence de la République. Une nomination qui survient après des élections législatives anticipées le 18 mai dernier. Le Premier ministre de centre-droit devra composer avec le nouveau statut de la formation d'extrême droite Chega, désormais première force d'opposition du pays. L'interdiction des étudiants étrangers à l'université américaine de Harvard en passe d'être bloquée, c'est en tout cas la volonté d'une juge américaine du Massachusetts, état où est basée Harvard. Outre une suspension temporaire, elle va octroyer certaines protections aux étudiants internationaux du prestigieux établissement. D'après le site internet de l'université, Harvard accueille cette année quelques 6700 étudiants internationaux, soit 27% de ses effectifs. Un mot en tennis, Novak Djokovic a dominé le français Corentin Moutet au deuxième tour de Roland-Garros. Le Serbe est devenu le premier joueur à atteindre le troisième tour du tournoi parisien pour la 20e fois. Novak Djokovic affrontera au tour suivant le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Denis Shapovalov et l'Autrichien Philippe Mišolić. Et un mot sur la météo. Ce soir et cette nuit, ciel bien dégagé. Demain, le temps sera ensoleillé et chaud, avec de rares cumulus l'après-midi en montagne. Il fera minimum 12 degrés, maximum 28 degrés sur le plateau et jusqu'à 30 degrés en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS. Jean-Marc Richard.
Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et si la transition, c'était de réapprendre à faire confiance et à se faire confiance? Quand on a vécu tant de trahisons, c'est ce que nous dit Pascal dans un message qu'elle nous a fait parvenir, comme beaucoup de messages, par exemple, par notre mail ligne de cœur tout attaché @rts.ch ou, dans le cas présent, par WhatsApp au 076 318 9 6 4 9. Elle dit « Aujourd'hui, c'est difficile, mais peut-être que demain, je résume son message que vous retrouverez sur la page Facebook Ligne de cœur RTS, peut-être que demain, je pourrai retrouver cette confiance en moi et surtout faire confiance aux autres. » Elle dit « Faire confiance n'est-il pas aussi une victoire sur les ténèbres ?» Une déclaration audacieuse que l'on peut encore rêver, encore aimer et peut-être un jour pardonnerai. Le tenterai-je un jour, dit Pascal. Alors voilà, dit-elle, une transition délicate, presque interdite, que l'on murmure à peine, craignant qu'en l'empruntant, on ne trébuche et ne se perde dans un labyrinthe d'exclusion. C'est un pas fragile, hésitant, qui pourrait bien ouvrir une porte vers l'inconnu ou refermer sur soi les voiles d'un espoir éphémère. C'est dire qu'en lisant Pascal, on hésite encore un peu. On hésite encore un peu à faire confiance, parce qu'on hésite fortement à se faire confiance. Et cette transition, elle n'est qu'à sa genèse. Elle est entamée, oui, c'est vrai, mais elle est loin d'être aboutie. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que la transition universelle, essentielle, c'est celle de pouvoir se faire confiance et de faire confiance aux autres. Et si la vie n'était qu'une transition? C'est la question que pose Hakim, qui dit « transition forcée comme d'autres qu'un cas avant moi ». Transition professionnelle, transition physique, des maux jamais pris en charge, transition neuropsychologique, en vrai tout est lié. Un cumul de burn-out et encore, ou peut-être burn-out, jamais identifié, donc burn-out ou bore-out, jamais identifié, jamais traité. Un trouble de l'attention avec hyperactivité sévère diagnostiqué récemment, un syndrome post-traumatique complexe découvert et surtout compris, il y a peu. Comme pour les maux physiques, un tas de choses jamais identifiées et jamais prises en charge. Le problème, c'est qu'on sait quand la transition commence, mais jamais quand elle finira. Ça va dans le sens de ce que nous disait Pascal dans son message. Et là, Hakim nous parle de transition très concrète. Il nous dit pour moi, la transition, elle a commencé le 22 août 2022, lorsque je me suis fait licencier pour raison économique, comprendre pour faire baisser la masse salariale permettant ainsi de faire monter l'action, dit Hakim. À moins que ce ne soit lors de mon licenciement le 29 mai 2014, après que j'ai dénoncé un manager toxique et refusé de continuer de le subir. Ou peut-être le 10 octobre 2010, lorsque mon ex m'a annoncé qu'il avait besoin de mettre de la distance 4 mois après notre partenariat enregistré et 10 mois après la construction de notre maison. Ou alors, en juin 1991, quand j'ai décidé de fuir ma ville natale pour m'éloigner de ma mère. Quoi ? Peut-être que ma fugue 2 ans auparavant en était le début. Finalement, je pense que je suis en transition, dit Hakim, depuis que je suis né. Et il nous pose cette question essentielle, qui s'inscrit parfaitement dans son message, mais aussi dans le message que je vous ai lu précédemment, celui de Pascal, et dans tous les témoignages qu'on a eus, depuis lundi, et qui étaient denses, très denses. Cette question c'est, et si la vie était une transition? On peut le murmurer, et si la vie était une transition? Ou le crier, mais là je ne vais pas vous l'imposer. On peut le dire avec un peu d'autorité, et si la vie était une transition? On peut tout simplement y penser ensemble et, en y réfléchissant, trouver les mots pour répondre à cette question et si la vie était une transition. On peut y répondre, ou en tout cas poser d'autres questions qui viendront s'ajouter à celles-ci, qui permettront peut-être un jour de trouver en quoi cette transition avait un sens, a un sens ou aura un sens. Bienvenue dans votre ligne de cœur. Bienvenue avec notre numéro de la ligne de cœur, le 0800 80 70 70 0800 80 70 70. Notre numéro est gratuit, bien sûr. Un WhatsApp, vous pouvez l'envoyer au 076 318 9 6 4 9. Merci pour les premiers WhatsApp que vous nous avez envoyés déjà avant le début de l'émission. 076 318 9 6 4 9. Et puis, on va ouvrir les SMS. Voilà, c'est fait. Pour envoyer votre message par SMS, cœur, un espace suivi de votre message et tout cela à envoyer au 939. Bienvenue.
S'arrêtera, est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Je n'attends rien, j'entends des voix qui parfois m'encombrent la tête, des mots que je retiens comme un poème que je répète. Si j'ai froid quand je me lève, que le matin est déjà loin, j'attends demain ou la relève. Je rêve que le temps s'arrêtera, que le monde soufflera. Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Je serre les poings, je ferme les yeux, je n'y vois rien, mais j'entends mieux. La vie autour, ça me rassure un peu. Je préfère les films en noir et blanc, la vérité au faux semblant, même si c'est caché et que ça casse au moins sa vie dedans. Y'a comme un léger décalage entre les noms et les visages, j'oublie qu'on peut tourner la page, dommage. Mais j'oublie pas les paysages, ni le parfum de l'orage. Y a-t-il un remède au cœur qui se crève? J'en rêve. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que le temps s'arrêtera? Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix.
Dans la ligne de cœur. Je voudrais juste avant d'accueillir Nadia revenir sur un ou deux messages que nous avons reçus hier soir par SMS, en particulier celui de Julie qui posait la question de savoir si on allait lancer une action type chaîne du bonheur pour récolter de l'argent et puis si la Croix-Rouge allait récolter des habits, meubles, jouets, ustensiles et autres objets. Alors, comme c'était tard quand j'ai répondu à cette question, et que les choses ont évolué depuis, d'abord, pas de récolte d'habits, de meubles, de jouets, d'ustensiles et d'autres objets. Il n'y a pas ce besoin-là. Et puis surtout, il ne faut pas encombrer, on ne sait pas où mettre tout ça. Et en tout cas, la Croix-Rouge ne le fait pas. Et même s'il y a des initiatives privées, on le dit, ce n'est pas toujours la meilleure des idées. Avec l'argent, c'est plus simple. Et ça, c'est le cas ici en Suisse, quand on fait de l'aide, mais aussi à l'étranger de plus en plus. Alors, soyons clairs. La chaîne du bonheur a déjà une réserve. Une réserve pour les intempéries en Suisse qu'elle met à disposition pour toutes les urgences qui concernent Blatten. Ça représente quand même à peu près 1,5 million. Et ça veut dire que grâce à cette réserve, la chaîne du bonheur est déjà active. Elle peut l'être grâce à la coordination qui est en place et qui s'inspire de ce qui s'est fait à Sierre. Vous vous souvenez des inondations à Sierre? Il y a des gens qui ont là aussi tout perdu, évidemment un peu moins qu'à Blatten, un peu moins, je dis pas perdu, mais un peu moins de monde. Mais surtout, la chaîne du bonheur a réactivé son compte pour les intempéries en Suisse. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de la chaîne du bonheur, www.bonheur.ch, et là, vous trouverez un lien avec Blatten et vous pouvez faire un don. Voilà, pour exprimer votre solidarité. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et de plus clair, puisque ensuite, l'argent ira réellement aux gens qui en ont besoin grâce à la coordination qui va se faire avec le canton et la commune. Maintenant, juste une petite précision, parce qu'on nous a posé la question, est-ce qu'il y aura une journée d'action de la chaîne du bonheur? Les journées d'action de la chaîne du bonheur, c'est pas quand on peut faire différemment, parce qu'on ne veut pas occuper toute l'antenne non plus, et puis il y a des journées comme ça qui sont consacrées à des émissions, compagnie et tout. Une journée chaîne du bonheur, c'est quand on peut pas faire autrement. Mais là, on peut faire autrement grâce au fait qu'on peut très vite intervenir sur le terrain grâce aux dons que vous pourrez faire sur le site internet www.bonheur.ch où il y a des bulletins de versement, ça existe encore dans les bureaux de poste. Hein. Si jamais, vous pouvez trouver ça dans tous les bureaux de poste et il suffit de mettre intempéries en Suisse. Voilà, comme ça, vous savez. Et si un jour, en fonction de ce que les assurances vont pouvoir ou devoir faire, surtout en fonction de ce que l'État va mettre en place, que ce soit le canton, que ce soit la Confédération, les fonds de solidarité, à ce moment-là, si vraiment les besoins sont très très conséquents et ne sont pas pris en charge par les institutions publiques que j'ai citées avant ou privées comme les assurances, on pourra faire une journée de solidarité, c'est clair. Mais pour l'instant, on s'en tient à ce qu'il existe un compte sur lequel on peut faire des dons pour les victimes de cette catastrophe. À Blatten. Bonsoir Nadia.
Bonsoir Jean-Marc.
Je suis content de vous avoir avec nous. On va parler transition avec vous, évidemment. Transition, on pourrait mettre au pluriel, non? Et on pourrait revenir sur cette notion de confiance. Parce que vous avez, malgré tout ce que vous avez vécu, finalement accordé votre confiance. Et puis ça s'est pas super bien passé, non? C'est ça?
Oui, effectivement, et ce, dans tous les domaines. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, professionnel, vraiment large palette de confiance que j'ai donnée. Et bon, en tout cas, envers mon ancienne thérapeute, la confiance que j'ai lui accordée, elle a été totalement honorée, parce que j'ai toujours pu faire confiance à son aide. Cependant, c'est vrai que je trouve que quand on voit qu'on peut faire confiance à quelqu'un, ça peut booster l'estime de soi, de sentir qu'il y a cette confiance et de pouvoir aller dans la transition. Et là, moi, pour moi, je suis dans une transition où, je suis déjà à l'écoute de mon enfant intérieur depuis un certain temps. Et là, je dois prendre des décisions qui m'amènent à des transitions où je suis obligée, où je me le dois par rapport à moi, à mon vécu, à mon passé. Et d'un côté, c'est douloureux de faire ça. Et d'un côté, je me dis, mais c'est le seul chemin pour donner la main à mon enfant intérieur et de lui dire, eh ben maintenant je suis là. Je te donne la main, je te lâche pas. Et non, on va plus vivre ce qu'on a vécu. Je dis on parce que maintenant je suis adulte, donc voilà. Mais voilà, on va pas revivre les mêmes choses, on va arrêter là. Et voilà, ça m'est arrivé dans le cadre dernièrement de mon insertion professionnelle. J'ai dû mettre un stop parce que je voyais que moi, ça me mettait trop dans l'insécurité. Et j'ai dû prendre cette décision par rapport à mon passé, tout ça, de me dire, là, je fais la transition de je sais pas où je vais aller encore. Et ça fait un peu peur.
Ouais, ouais,
mais je me suis dit, je me le dois par rapport à la décision que j'ai prise de me donner la main. Donc, mais voilà, votre message, c'est vrai, sur la transition m'a beaucoup touchée parce que c'est... Alors après, il y a plein de transitions, mais je remarque aussi que mon corps physique est en transition, que je suis quinquagénaire maintenant. Et je vois, là, maintenant, j'ai ceci, cela, c'est différent. Enfin, et donc, il y a plusieurs transitions et c'est pas évident à gérer, je dois dire.
Et vous arrivez à les prendre les unes après les autres ou bien elles vous envahissent toutes en même temps?
Non, elles m'envahissent toutes en même temps parce que, par exemple, quand j'ai mal... Par rapport à mes varices, c'est pas moi qui choisis. Et tout d'un coup, j'ai une lancée, j'ai mal, ça peut être en pleine rue, ça peut être dans le... Enfin, voilà. Après, par rapport à ce qui s'est passé à mon travail, c'est les émotions, elles viennent, on ne choisit pas. Moi, mardi, je pleurais dans la rue.
Mmh.
Donc, et c'est rare que je pleure. Normalement, c'est rare déjà que je pleure, mais là, en plus, dans la rue. Voilà, c'est... Mais je vois que c'est un trop-plein d'émotions. En fait, ça fait un moment que je vais partir de là-bas, mais chaque fois, je me disais, ça va aller mieux, et puis ça va changer. Et puis, en fait, je remarque que cet instinct que même les animaux ont, cet instinct qui me disait de partir, que c'était juste, en fait.
Mais en fait, vous aviez réappris, sous forme de transition, à faire confiance, et puis là, ça a été une déception, quoi. Mais vous n'avez pas perdu complètement la confiance.
Ben, en tout cas, j'ai encore des, comment dire, par rapport à vous, par exemple Jean-Marc, à la ligne du cœur, ben, la confiance, elle est là, elle est pleinement honorée sur votre écoute et votre pédagogie à écouter les gens avec beaucoup d'humanité. Mais c'est vrai que là, même il n'y a pas longtemps, avec mon thérapeute, ce qui s'est passé, c'était pour moi très, très douloureux. Mmh. Et je me suis dit, mais je ne vois pas comment avancer. Là, quand je vois pour moi que... Après, il y a plusieurs formes de trahison à part ça. Il y a la trahison, par exemple, dans un couple, en amitié. Mais il y a la trahison aussi de qu'on donne quelque chose à l'autre, puis la personne après vient piétiner. Et ça, pour moi, c'est une forme de trahison aussi.
Est-ce que vous arrivez aujourd'hui avec toute l'expérience que vous avez et la sagesse qui est la vôtre, justement, à passer à autre chose malgré ça?
Alors, je dois donner une réponse normande, je vais vous dire oui et non. Oui, j'y arriverai, mais dans d'autres conditions. C'est-à-dire que si, par exemple, si moi, mon physique, maintenant, j'étais en excellente santé, puis qu'au niveau finance, ça roulerait, ben, je me dirais, OK, ben, je m'inscris à un cours de stage, au fitness et tout, et je reprendrai le dessus. Tandis que là, avec ces douleurs, je suis couchée, et du coup, ça me fait plus ruminer. Et du coup, j'ai de la peine à... C'est pas évident pour avancer dans ces conditions. Mon chèque fait la fofolle, là. Non, mais voilà, à part ça... Mais il y a quelque chose quand même, parce que j'aime bien apporter toujours une petite note d'optimisme et de joie. Et c'est vrai que mon chat, tout à l'heure, elle m'a tendu ses pattes, elle voulait venir dans mes bras. Et là, en fait, ça fait 4 ans et demi que son amour a toujours été présent. Elle ne m'a jamais trahi. Elle m'a toujours aimée, sans condition.
Oh, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Quelles sont les transitions? Alors, avant de vous poser cette question, je voudrais, parce que Mary réagit par rapport à ce que vous dites et aussi par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure, elle dit « La vie est une transition constante entre des âges différents, des priorités qui changent, des intérêts qui vont et qui viennent, des relations qui se créent ou s'interrompent, des statuts qui se modifient, familiaux notamment. C'est à mon sens ce qui fait son intérêt. Si l'on ne focalise pas uniquement sur les transitions douloureuses, mais aussi celles qui nous ont fait grandir, sourire, aimer, découvrir. » Ça va dans votre sens, hein?
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que voilà, j'ai la séparation avec mon minister depuis 35 ans. Après, un événement a fait que on s'est rapprochés. Et puis voilà, on s'appelait 2 fois par semaine. Et puis plus rien, c'est moi qui essaie de reprendre contact, mais je vois que c'est vraiment très distant, et je suis là, ouais, mais... Et voilà, ça c'est des choses qui font mal, que... En tout cas, moi, personnellement, ça, je ne sais pas comment le dépasser, parce que ça touche mon affect profond. Alors, je dois déjà faire le deuil de la personne qui m'a mise au monde, alors qu'elle est vivante, ça c'est déjà pas facile à faire, mais en tout cas, ce qui aide dans la transition, enfin, en tout cas, pour moi, et c'est aussi pour ça que je voulais témoigner, c'est aussi d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, de son enfant intérieur, de dire, mais là, est-ce que tu ressens, est-ce que c'est juste ou pas? Ce que l'autre t'a dit, est-ce que c'est juste ou pas? Et moi, je vois que là, il y a quand même, pour ma part, un progrès, parce qu'à l'époque, ce qu'on me disait, je le prenais de plein fouet.
Alors, oui, bien sûr.
C'est encore un peu le cas maintenant, mais après, il y a comme, il y a cet instinct, cet enfant intérieur qui réagit rapidement. Et voilà, mais après, y a cette réflexion d'adulte qui vient, mais ok, ce que l'autre t'a dit, est-ce que c'est juste? Mais apparemment non. Et c'est cette transition qui permet d'aller plus loin, en fait, de transcender son moi intérieur. Mais c'est, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, c'est hyper difficile à faire, je trouve, en tout cas.
Qu'est-ce que vous pensez quand Hakim dit à sa façon, la vie est une permanente transition, est une transition?
Alors, permanence, je dirais. Alors, oui et non, d'un côté, c'est-à-dire, c'est un peu sans mot d'accord. Pourquoi? Parce que il y a des moments où tout d'un coup, on a l'impression que c'est stable. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin. Et voilà, il y a des moments où c'est stable, où on a trouvé notre équilibre. Et là, moi, pour moi, ça, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. Et là, bah, y a eu une transition. Mais après, il y a cette constante qui dit, OK, bah, là, j'ai trouvé vraiment mon chemin. Après, voilà, il se passe des choses dans la vie. Oui, bah là, effectivement, ça change de nouveau et c'est cette permanence constante. Mais dans cette permanence, il y a quand même des moments de pause. Mais c'est vrai qu'on est toujours amené à changer. Et après, il y en a qui ne veulent pas changer, qui disent non, mais moi, je suis comme ça, je reste comme ça et c'est comme ça.
Merci beaucoup, Nadia, d'être venue. Merci infiniment.
Mais je vous en prie. Alors, à bientôt, Jean-Marc.
Et je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt, au revoir.
Merci, pareillement, au revoir.
Et comme le disait dans l'émission précédente, Pascal Chouvet, et sans transition, je voudrais vous lire ce message de Valérie et Stéphane, très sympa. Nous avons une petite boulangerie végétale itinérante. Nous avons décidé que depuis lundi, nous ferons un pain spécial soutien à Blatton. Nous allons récolter cet argent pendant un mois ou deux et le reverserons à la chaîne du bonheur. Nous sommes les lundis et jeudi matin à B, le mardi matin à Verossa et le mercredi matin aux planches à Montreux. Ça s'appelle au pain sans peine. C'est génial. Merci beaucoup Valérie et Stéphane. Ce sont des messages qui nous touchent beaucoup. C'est ces élans de solidarité qu'on peut faire sans avoir besoin nécessairement de prendre un téléphone, mais par un don, par en organisant par exemple, à travers son activité professionnelle quelque chose. Donc tout ça, on s'en fera l'écho. Hein, on n'est pas pressé à le faire que sur un jour parce que il va falloir de la patience un peu pour reconstruire tout ça au sens propre comme au sens figuré. Donc n'hésitez pas si vous envoyez des messages. On s'en fera l'écho, voilà. Et on se réjouit de vous accueillir dans un petit moment, peut-être, au 0800 80 70 70, et de vous lire, par exemple, comme ce WhatsApp envoyé par Stéphanie au 076 318 9649. Elle nous dit « Transition SDF et après appartement, très dur au début ». Très intéressant ce que dit Stéphanie. Quand on vit dans la rue et on passe ensuite à un appartement ou à un lieu, des fois qu'on partage avec d'autres, hein, parce que ça peut être un foyer, ça peut être d'autres structures, c'est pas simple. En tout cas, pour Stéphanie, ça a été très dur au début. Voilà, bienvenue. Bienvenue au 0800 80 70 70.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our Rosalie to roam with the Buffalo. Wash, but you can't clean your name. You're not called Jim.
used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say,
c'était bien ça, vraiment très bien. Et c'était quoi, je sais plus, c'est Jimmy je crois de Moriarty, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est Isabelle qui me souffle que c'est juste. Oui, c'est qui Isabelle? C'est Isabelle Barthe, évidemment, notre déesse de la soirée. Enfin, on en a deux déesses, c'est possible, ou bien oui, la deuxième c'est Daniel Do qui attend vos appels au 0800 80 70 70. Je les vois les deux en train de faire des commentaires sur ma façon de les étiqueter. Il y a aussi dans les messages qu'on a reçus ce message à propos de la transition de la ménopause, le corps qui change, comme souvent on en a parlé. Alors que Valérie dit je viens de faire un don pour Blaton, je suis très touché et ému par la situation. Je trouve c'est chou. Merci Valérie. Je n'ai pas dit combien vous avez versé, ça regarde pas les gens. Mais surtout, pour le reste, on va accueillir Eva. Bonsoir Eva, bienvenue.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Marc.
Je suis très content de vous avoir avec nous parce que hier vous avez réagi en écoutant les jeunes et quelques moins jeunes parler effectivement de cette sortie de la scolarité obligatoire. Et de, on fait quoi après? Parce que parfois on rencontre des difficultés, des fragilités, ou parfois on est, et ça a été souvent souligné dans les témoignages, on est dyslexique. Et vous, c'était un peu ce que vous avez vécu, si je comprends bien?
Ben oui, il y a le milieu dyslexique, dysorthographique de toute façon. Et puis oui, je remets avec voilà ces jolies lettres qui n'étaient pas si rondes, si droites. Mais je pense que j'ai eu une bonne partie, c'était que dans mon école, on m'avait pas persécutée. Oui, il y avait un mauvais moment où je donnais mon corps et l'âme dans une idée. Je donnais travaux à l'enseignant et il revenait avec la note abaissée à cause de cette orthographie fatale. Mais j'ai survécu.
Mmh. Et quand vous dites j'ai survécu, parce que c'était vraiment un état de survie?
Non, pas vraiment. Peut-être il y a quelque chose en moi qui cherche par curiosité quelque chose intéressant, s'accrocher, rire de n'importe quoi à chaque occasion. Et j'ai demandé à une ancienne collègue d'école primaire comment elle se souvient, comment j'étais de son point de vue. Alors elle a dit une qui m'avait dit qu'elle était toujours gaie, souriante. Et l'autre qui m'avait dit, tu sais, quand tu as parlé, parfois les enfants riaient de toi. Donc, j'ai même pas senti à quel point j'étais décalée de niveau moyen de classe, de leur langage. Parce que oui, c'est les livres, j'ai pas eu de problème à lire. Plutôt orthographie. Et les livres ont pu remplir l'enfance assez triste, assez monotone.
Votre enfance était triste et monotone?
Oui, c'est un centre industrie lourde. Les maisons gris, et de temps en temps les villages où j'ai eu grand-père. Et j'ai grimpé sur les cerisiers. J'ai grimpé sur les arbres, je jouais avec les enfants de la campagne. Mais de nouveau, retour dans la grisaille. Ma mère, elle est décédée rapidement, assez tôt.
Ouais.
Mon père, il ne s'intéressait pas à mes résultats à l'école. Il dit, qui étudie pour toi? Donc, c'était simple. Personne ne m'avait pas ni moralisé, ni suivi, malheureusement.
En même temps, vous auriez aimé un peu plus de présence de votre papa, par rapport en tout cas à l'école et par rapport à ce que vous viviez.
Présence, à certains, oui. J'étais cet enfant qui n'arrivait pas à attendre que la question ait été posée et je levais les doigts tout de suite. La première chose que je me souviens, on m'avait appris, attendre que les autres parlent. Je suis bavarde depuis très tôt, probablement.
Est-ce qu'il y avait chez vous quelque chose du domaine du haut potentiel?
Je l'avais découverte très tard.
Ouais.
Et c'était, d'un côté, c'était une claque. Et parce que ça m'avait un peu indignée. Il y a trop d'idéalisation.
Ouais.
Et moi, je me sens d'accord, différente.
Ouais.
Mais j'ai aucun besoin d'être meilleure, mais pas être la pire, avoir la conscience de mes compétences.
Mmh.
Et c'était très utile quand même de plonger pendant quelques années dans cette recherche des vrais et des faux sur HP.
Mmh.
Mais ça m'avait aidé, c'était un bon travail. Et c'est ça qui m'avait frappé pour ces enfants.
Mmh.
Il ne faut pas qu'on soit dans ce monde assez uniformisé.
Mmh. Mmh.
Et il faut s'aimer tel qu'on est. Il faut un petit peu... Il faut, j'aime pas ce mot, il faut. Mais c'est mieux, simplement. Et rire, c'est aussi, ça décompacte, décompresse de stress.
Mmh.
Ou plonger dans la vie des autres, voilà, le livre.
Mmh.
Ça m'avait finalement... c'est le livre qui m'avait aidé à devenir moi-même.
La lecture, oui. C'est ça?
Oui, la lecture, le livre avec le... sujet différent.
Mmh.
Et j'aurais besoin d'un mentor qui pourrait me tout de suite montrer quel livre soit plus intéressant, moins stérile. Mais effectivement, on peut, avec le livre, avec ce matériel, on peut se former soi-même sans même pas honte. Dans ma situation, j'étais tout seul.
Mmh.
Et longtemps, c'est ça qui est difficile dans l'enfance, la solitude, parce que souvent les échanges entre les copines, collègues, sont au début assez superficiels. Mais à 10, 12, 15 ans, et ça devient plus profond. Et effectivement, transition multiple... Ça, c'est... Avec l'âge, on apprend à être curieux. Qu'est-ce qu'il aurait l'étape suivante? Qu'est-ce qui m'attend? Quel homme je vais trouver les prochains mois? Et effectivement, chaque travail, chaque couple que je crée, et je m'avais découverte dans une autre situation. C'était notre moi-même.
Mmh.
Et donc, c'est très intéressant de ne pas considérer quelque chose qu'on a dû abandonner, qu'on a décidé d'abandonner, comme raté. C'était une occasion d'apprendre quelque chose sur la vie, sur l'autre, sur soi-même.
Mmh. Je vous écoute, Eva, et je me dis, Quelles sont les transitions qui vous attendent maintenant?
J'adore. Par exemple, je suis une bonne cobaye pour moi-même, pour mes expériences. C'est-à-dire, deux, trois fois, je passais à un autre régime. Non, pas parce que je suis obèse, c'est parce que je, au contraire, mais je considère ça comme la vraie médecine. Et éviter tout ce qui est toxique et transformer ma vie pour être en meilleure forme, pour remonter la pente. Et ça, c'est fantastique parce que je suis dans la bonne direction. Je suis très contente de ce que je découvre en fouillant Internet, parce que maintenant, je suis addict à l'Internet dans le bon sens, par curiosité, chercher nouvelles pistes, nouvelles informations, compléter ce que je sais ou vérifier ce que j'appris faux. Et oui, la transition, c'est que je fais le sport, qui ne m'avait jamais intéressé particulièrement, que je suis dans les miroirs, je suis très contente de moi-même, de mon corps, de ma force. Et voilà, c'est chouette.
Merci beaucoup Eva d'être venue ce soir. Merci infiniment d'avoir apporté ce beau message d'espoir, de force et de confiance.
Je peux dire quelque chose à maman Laura.
À la maman, à Laura, oui. Oui.
Certainement, elle aussi une femme très intelligente. Mais parfois, il faut tomber sur les bonnes informations. C'est pour ça que je parlais de cette association pour les enfants à haut potentiel. Parce qu'à cette occasion, j'ai pu voir beaucoup de conférences. Et ce qui m'avait un peu aussi donné les idées, à vrai dire, idéalement, la profession qu'il faudrait chercher, ce n'est pas celle où on travaille en équipe. Et si on est atypique et travaille avec l'équipe, c'est un consensus, c'est avaler les meilleures idées ou les feux d'avertissement. Et il faut céder, c'est des fois très douloureux pour quelqu'un qui comme moi, je déteste mensonge, je déteste flatterie. Ni pour moi, ni cela de quelqu'un. Ça, c'est très typique pour nous. Donc, cette association, elle fait pas mal de travail. Ou la Mensa française. Ils font bon travail. Il y a plein d'évidents. Et dyslexique, c'est pas moi qui ai inventé dyslexique, c'est fantastique. Il y avait la conférence 10 septembre, octobre, 10. Pour les 10 graphies. Alors, effectivement, il y a les lois, ils ont le droit d'avoir les parcours écoliers personnalisés, adaptés à eux.
C'est super, ça. Bon, ben merci beaucoup. L'association, on transmettra toutes les coordonnées. Association Suisse pour les enfants au potentiel, bien sûr. Et puis, merci pour les autres adresses. À bientôt, Eva. Bonne nuit.
Bonne nuit, merci. Bonsoir.
Merci. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Des coordonnées qui seront transmises évidemment à Laura qui a témoigné hier soir et dont vous entendrez demain soir dans l'émission un extrait du dit témoignage. On va faire, comme je le disais tout à l'heure, sans transition, un grand saut dans un tout autre domaine avec celui qui fait que quand on vit une transition, parfois on recherche le clic, et l'amour. Il existe un guide pratique pour réussir vos rencontres en ligne qui a été publié aux éditions de l'Homme et dont les auteurs sont Gérald Marco et Isabelle Nazaré-Aga. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous avez compris que cette semaine, le thème de la ligne de cœur, c'est la transition. Et s'il y a bien des transitions qui parfois sont compliquées et douloureuses, c'est quand, par exemple, on se sépare, quand on se retrouve seul, quand on n'arrive pas à faire le pas pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et depuis quelques années, il existe des sites on va dire ça comme ça, hein, Tinder, Grindr et d'autres, on ne va pas tous les citer. Vous, vous êtes auteur de ce livre, et alors vous avez donné de votre personne, hein, parce que vous avez infiltré pendant des années cet univers. C'était une envie particulière ou bien c'était aussi parce que vous recherchiez l'amour?
Alors d'abord, je recherchais l'amour, sachant que j'étais comme des centaines de milliers de personnes, pas du tout préparées à utiliser ce moyen complètement nouveau pour moi. Afin de trouver une personne qui pourrait me convenir à long terme. Et donc, j'ai rencontré Gérald Marco justement à travers une application de rencontre. Nous sommes devenus amis très, très rapidement et parce que je suis déjà auteur d'ouvrages beaucoup plus sérieux, on va dire, dans le sens difficile, sur les manipulateurs en l'occurrence, que je lui ai proposé d'écrire cet ouvrage à deux mains parce que lui est un homme, il a donc les profils des femmes sur son application et moi j'avais les profils des hommes et en fait on s'est pris au jeu de découvrir un très grand nombre de choses, on a eu de bonnes expériences et on s'est dit mais nos bonnes expériences on les a pas par hasard et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire à la fois un guide pratique et aussi un guide d'analyse de tout ce qui émane de cette quête, de cette transition entre justement une, comme vous le disiez, une partie de la vie où on a expérimenté dans notre vie sentimentale le bien comme le mal, l'heureux comme le malheureux, souvent divorcés ou séparés, et les hommes et les femmes omettant de leur vie quelle que soit leur orientation sexuelle d'ailleurs, parce que nous on ne parle pas que auprès des hétéros, pensent avoir tout vécu du couple et ils n'ont souvent pas très envie de se réengager là-dedans. Voilà, et en fait c'est une aventure qu'on a vraiment voulu partager, mais d'une façon sérieuse, un peu rigolote. On a aussi interviewé une quarantaine d'hommes, de femmes, de tous milieux, de beaucoup de pays différents.
Et alors, au-delà de l'intérêt que votre livre apporte à ceux qui ont envie de rencontrer des gens en ligne, il y a le côté tout à fait passionnant de ces témoignages et des informations que vous en avez tirées. Par exemple, dans les premières pages de votre livre, vous parlez des femmes occidentales de plus de 35 ans qui font partie de votre panel et qui, à prépondération, par ordre d'importance, regardent les centres d'intérêt, oui, les passions, la taille, la consommation de tabac, la localisation, le niveau d'études. Il y a quelque chose qui vous a étonné, parce que quand même, la consommation de tabac au milieu...
Alors non. Alors, je ferai la remarque que je pense qu'il y a une 25-30 ans, personne n'aurait pensé à la consommation de tabac comme c'est un état rédhibitoire. Hein.
Ah oui, oui.
Et chez les hommes aussi. Là, je l'ai fait spécifiquement chez les femmes parce que j'y ai pensé un peu tard dans mon enquête et j'avais beaucoup, beaucoup plus de femmes qui pouvaient y répondre. Le niveau d'études, moi, j'aurais pensé plutôt que c'était le métier et en fait, non, c'est le niveau d'études qui interpelle les femmes en cinquième position. En revanche, moi, j'ai pas du tout été étonnée pour regarder en premier lieu les centres d'intérêt, les passions que le profil qui nous intéresse détient parce que il y a des incohérences. Et puis, vous savez, moi, j'habite maintenant dans le sud de la France et je trouve ça très étrange que parmi les 160 propositions, que ce soit de Tinder, Bumble, Badoo et autres, Happn et autres applications, pourquoi est-ce que certains marquent sushi, faire le tour des cafés, promener le chien? Enfin, là, je suis... je me dis qui va être intéressé par un type qui a envie de promener le chien comme passion, vous voyez, centre d'intérêt. Donc en fait, c'est très très significatif de regarder effectivement dans les profils qu'est-ce qui anime l'individu qui pourtant a des photos qu'on trouve sympathiques. Et puis la taille, ça surprend les hommes quand je leur dis que les femmes occidentales de plus de 35 ans regardent la taille. Ils sont assez vexés quand ils font moins d'1m70. Et oui, et je sais pas si c'est programmé génétiquement chez nous, les femmes occidentales, on n'a pas envie d'avoir un homme qui est vraiment plus petit que nous. Probablement aussi parce qu'on porte des talons. Voilà. Mais c'est peut-être pas seulement le plan pratique.
Alors, dans votre quête et dans les informations que vous avez glanées, il y a des choses intéressantes sur les likes, hein, parce que ça fonctionne comme ça. Moi, j'y connais rien, donc je vais peut-être commettre des erreurs et je m'en excuse. Mais il y a les likes et les matchs. Donc, vous faites un like et puis si l'autre personne like, ça veut dire que ça match. C'est ça? C'est juste?
Oui. D'accord. Exact, exact.
Alors, c'est très intéressant parce que les femmes like en moyenne un profil sur 16 et les hommes like en moyenne un profil sur 3.
Oui.
Ça ne veut pas dire que ça match chaque fois hein, pour les hommes, mais...
Ah ben non, même c'est vraiment désarçonnant pour les hommes parce qu'ils obtiennent en moyenne un match sur 40 likes.
Waouh. Et les femmes?
Un match sur 2.
Waouh. Donc, inversement proportionnel entre les likes et les
plus. Ah oui, ouais. Personnellement, moi, c'est 2 likes sur 100. Mm-hmm. Parce que les hommes, ils ont. D'abord, ils sont beaucoup plus nombreux, statistiquement, sur les applications de rencontres. Hein. Okay. 75% et nous, les femmes, 25% hein, sur Tinder, par exemple. Donc, à un moment, les hommes ne reçoivent pas suffisamment de likes. Se disent, bon, je vais me donner une chance, l'algorithme, il va me donner beaucoup plus de profils, et puis je vais bien tomber sur une fille qui m'aura liké quand même. C'est pour ça qu'ils font 1 sur 3. C'est par désespoir.
Dans ce sens-là.
Le problème, c'est que ces garçons, ces hommes-là, quand on commence à chatter, c'est-à-dire à s'écrire, et qu'ils nous reposent des questions alors qu'on l'a mis sur notre profil, on s'aperçoit bien qu'en fait, il a regardé nos photos et il nous trouve belle, sexy ou je ne sais quoi. Et en fait, il n'a pas regardé le détail de la description libre où on parle de nous, de ce que l'on attend aussi. Et bon, ce sont des hommes qui finalement se retrouvent à être déboutés avant même la rencontre.
Est-ce que vous arrivez, en quelques mots, à expliquer pour quelles raisons la plupart de celles que vous avez rencontrées, ainsi que vous, s'inscrivent sur une plateforme de rencontre?
Oui, alors généralement, en tout cas pour les femmes que j'ai rencontrées, la plupart ne l'ont pas fait spontanément. C'est-à-dire que ce sont des amis ou une personne qui dit « mais tu devrais t'inscrire ». Et comme on n'y connaît rien, eh ben on est aidé. Non, bah tiens, on va te choisir un pseudo, ou au contraire, on va utiliser ton prénom, Muriel, voilà, qu'est-ce que tu as comme qualité, et on va être aidé. Les raisons pour lesquelles on s'inscrit, parce qu'elles n'arrivent pas tout de suite à l'esprit, mais je dirais que c'est pratique. La première chose extraordinaire, c'est qu'on peut être à 23h dans son lit, ou dans son canapé, ou en train, ou à 17h30 dans un embouteillage, et commencer à regarder qui pourrait être dans notre entourage une future relation. D'ailleurs, je tiens à dire que nous avons tous rencontré, grâce à ces applications de rencontre, des personnes, des femmes, des hommes, que nous n'aurions jamais, jamais, au grand jamais rencontrés dans la vie réelle. Mmh. Et par leur métier, par leur... pourtant, on peut être qu'à 10 kilomètres l'un de l'autre, et ce sont des personnes qui nous apportent des choses fantastiques parce qu'elles ont un vécu à l'opposé ou très différent du nôtre, de leur profession, voilà. Donc le côté pratique, c'est déjà une première raison. Rechercher l'amour, l'affection, une complicité, c'est très très souvent spécifié. Beaucoup aussi veulent sortir de la solitude, de l'ennui, de la routine qu'ils se sont imposés hein, finalement. Il y a un côté assez excitant de se dire, tiens, est-ce que Jeannot, là, que j'ai liké, est-ce qu'il m'a répondu, j'ai envoyé un petit message, ou Léa. Il y a aussi pour réveiller son désir, hein, ou vivre de nouvelles expériences sexuelles, parce qu'il n'y a pas de tabou dans notre ouvrage sur ce sujet. Oui. C'est très important, la sexualité. C'est très important de se réveiller à nouveau. Il y a des gens qui ont vécu 20 ans, 25 ans, 30 ans en couple et qui n'ont plus d'activité sexuelle et ne se sentent même plus désirables. Et là, il y a quelque chose qui s'éveille, qui s'anime à nouveau à l'intérieur de nous. On a aussi des personnes qui vont justement utiliser les applications de rencontre, pas pas comme désir initial, mais ils vont s'en rendre compte qu'ils osent, ils pratiquent leur autothérapie. Parce que ça leur change les idées, parce qu'ils ont du stress ou des grands moments de stress, des grandes périodes de stress. D'autres, c'est parce qu'ils ont de la dépendance affective et du coup, travailler sur cette dépendance affective en ayant des contacts plus variés, ça va les aider à moins focaliser sur une seule personne. D'autres, et c'est très intéressant et important, je m'adresse aux timides. Dépasser sa timidité, je parle même plus aux hommes qu'aux femmes dans ce cas-là. C'est très compliqué pour des hommes timides de draguer. Et en plus, on est passé par MeToo, il ne faut pas l'oublier. Hein. Depuis 6 ans, c'est compliqué pour les hommes, surtout dans nos, voilà, en Suisse, en Belgique, en France. C'est pas, même au Canada, où je vais régulièrement, les hommes ne draguent plus. Dans la rue. Ils ne draguent plus au café, ils ne draguent plus dans une brasserie, ils ne draguent plus en boîte. D'ailleurs, les gens ont mis tant de notre vie, de leur vie, pardon, ils ne vont pas en boîte de nuit, on ne nous accepte pas. Donc, il y a de moins en moins de lieux traditionnels où on peut rencontrer des personnes sur le plan sentimental. Et puis on a aussi des personnes qui ont envie de s'encanailler dans une relation extra-conjugale parce qu'elle est ennuyeuse ou parce qu'elle ne se retrouve pas à être valorisée.
Isabelle, voilà, donc, je vous écoute et c'est magnifique parce que vous décrivez ça parfaitement. Je me pose une question aujourd'hui et vous l'abordez un petit peu dans votre livre aussi parce que c'est important. Il y a encore quelques années, y compris dans les témoignages qu'on avait à la ligne de cœur, quand les gens venaient parler de couple, très rarement, quand on leur demandait « mais comment vous avez rencontré cet homme ou cette femme ?», très rarement, ils osaient dire « sur Tinder » ou « sur une de ces applications ». Ça a changé aujourd'hui ? On ose dire « j'ai rencontré l'homme, la femme sur Tinder
». Mais ça a changé de notre expérience depuis 2-3 ans seulement.
Ah oui, c'est récent.
Oui. Alors qu'au Canada, moi j'ai eu, je suis formatrice là-bas aussi, et j'ai eu la surprise il y a une quinzaine d'années d'avoir à la pause une de mes participantes de 50-52 ans qui me disait qu'elle avait rencontré un homme sur une application. Et je dis, mais vous savez, attendez, à votre âge, sur une application, mais oh là là, ça n'arrivera pas chez nous. Non, pas en France. Hein. Eh bien, je me trompais, hein. Donc il y a des pays qui sont plus avancés que les nôtres et en fait je vais aussi au Maroc et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se présentent en profil sur les, sur les sites. Mon frère est en Thaïlande, j'y vais régulièrement, pareil, en fait c'est mondial cette voie, et de moins en moins de gens sont honteux de passer par ce biais pour signifier qu'ils sont en quête de l'amour, de la complicité, du couple. Et tant mieux. En France, enfin excusez-moi, mais en 2024, on a les derniers chiffres, Tinder comptait 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 75 millions mensuels actifs. Et vous aviez 8 millions d'abonnés payants, parce qu'on n'est pas obligé de payer non plus.
Ah. Isabelle, c'est passionnant de vous écouter. On pourrait vous écouter toute la soirée, toute la nuit. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes co-auteur avec Gérald Marco de ce livre « Click and Love », guide pratique pour réussir vos rencontres en ligne aux éditions de l'Homme. Donc voilà, si les gens s'intéressent, ils trouveront le lien sur votre livre, sur notre page internet rts.ch/ligne de cœur, ou bien sûr, cœur aussi, ça fonctionne. Merci d'être venue, Isabelle Nazaré Agar.
Ça fait plaisir.
À bientôt, bonne nuit. Au revoir,
à
merci.
Bientôt, bonne nuit.
Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez d'autres informations, évidemment sur ce livre, vous pouvez aussi appeler Danielle, puisque c'est elle qui a lancé cette invitation. Mais je pense que vous trouverez toutes les coordonnées de ce dernier sur notre page internet. C'était intéressant, évidemment, de parler aussi de cette transition-là, quand il y a une cassure, une rupture, un moment de grande solitude, peut-être aussi parce que on se retrouve en face de soi-même et qu'on aurait envie de partager plein de choses. C'est peut-être plus simple, ou alors, je ne sais pas. mais de renouer des contacts ou de nouer des contacts sur ces applications. C'est une forme de transition. Transition sans autre, maintenant, vers l'information sur RTS Première. On se retrouve juste après. Bien sûr, il est 23h, dès maintenant.